Bonjour. Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondiaz, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Dieu a dit aux Juifs, allez à Canaan, c'est votre terre de promesse, je vous la donne. Les gars, ils arrivent à Canaan, ils voient des géants. Sur toute la terre, tout le monde est normal. C'est seulement sur la terre que Dieu nous donne qu'on voit des géants de 3 mètres. Et la Bible dit que ils sont allés, et quand les espions sont revenus, ils ont dit à Moïse, nous étions à leurs yeux et à nos yeux semblables à des sauterelles. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont arrivés, les géants les ont vus. Tu sais, quand tu vois une sauterelle, qu'est-ce que tu fais? Tu fais, tu l'ignores. Donc les géants peut-être étaient en train de travailler, ils ont vu les...
C'est qui?
Et puis les gars, ils disent, ah, les gars nous ignorent, hein, c'est que vraiment, on est vraiment insignifiants. Et ils sont repartis, ils ont dit, les gars, c'est la mort là-bas. Le jour où tu veux entrer dans ton territoire de promesse, où Dieu t'appelle, si c'est le ministère, si Dieu t'appelle au ministère pastoral, si Dieu t'appelle à être entrepreneur, si Dieu t'appelle à être avocat, si Dieu t'appelle à n'importe quoi, tu vas avoir des géants qui se tiennent là et disent tu ne prends pas, mais tu vas devoir te battre. Ceux qui ne se battent pas, ce sont ceux qui meurent. Mais ceux qui se lèvent et qui décident de prendre possession de ce qui leur appartient, c'est ceux-là qui réussissent. Ah oui, hein. Dans le monde dehors, ils ont compris ça. Sauf qu'eux, ils n'opèrent pas avec Dieu. C'est pour ça qu'ils se font la guerre comme ça. Là. Nous, on travaille avec Dieu. On avance avec Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que quelqu'un dise la grâce surabondante. Ça fait plusieurs semaines qu'on est dessus. Et je rends grâce à Dieu pour ce message. On va prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 18. C'est un très, très bon enseignement que Dieu est en train de nous donner là. Parce que vraiment, même moi personnellement, je vous assure, ça me fait beaucoup de bien. Parce que j'apprends des choses en lisant la Bible. Je découvre des choses. Il y a des passages qui étaient vraiment insignifiants pour moi avant et que je découvre d'une autre manière. Ouais. Livre de Jean, chapitre 1, verset 18, il est écrit, « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Que quelqu'un dise la grâce, et la vérité.
Et la vérité.
Sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ est la grâce. Ce n'est pas un titre qu'il a, c'est sa nature. Il est la grâce. Donc Jésus-Christ est la grâce. Et toute personne qui rencontre Jésus-Christ expérimente la grâce. Sauf qu'il y a un niveau de grâce qu'on appelle la grâce qui a surabondé. Cette grâce-là qui a écrasé le péché. Cette grâce-là qui nous donne accès aujourd'hui à la présence de Dieu. Cette grâce-là aujourd'hui qui nous a rétabli à notre position de fils. Cette grâce-là aujourd'hui qui, lorsque nous prions, nous donne une autorité et une puissance de pouvoir ouvrir les cieux. Cette grâce-là qui nous amène à marcher dans le miraculeux. Cette grâce-là qui nous amène à faire des exploits avec le Seigneur. Mais cette grâce aussi dépose aussi sur nous une faveur qui fait que chaque fois que Dieu pose le regard sur toi, Dieu sourit. Quand Dieu te regarde, Dieu est heureux. Dieu est content. Moi, quand je regarde ma fille, elle me fait toujours sourire. Toujours sourire. Parfois, je suis là et je suis en train de réfléchir et je ne souris pas. Une fois, par exemple, j'étais à table en train de manger. Je prends souvent le petit déjeuner avec ma fille le matin. Et puis, je suis dans mes pensées. Et puis, elle voit que je suis dans les pensées. Et puis, elle fait, « Oh, papa, ça va ?» Je dis, je fais oui, ça va. C'est quoi? Et puis elle se met devant moi et puis elle fait comme ça. Sourire un peu, sourire un peu, sourire. Genre, C'est cool la vie, il n'y a pas de problème. C'est normal, elle a que 5 ans. Tu vois. Mais c'est exactement la même attitude qu'on doit avoir avec notre papa. C'est-à-dire, on doit être confiant, rempli d'assurance, parce qu'on sait que Jérémie 29, 11 dit que je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Que quelqu'un dise avec moi la grâce surabondante. On a dit beaucoup de choses. On va prendre un autre passage. On va reprendre un autre passage qu'on a lu plusieurs fois. C'est Romains 5 au verset 17. Romains 5 au verset 17, où il est écrit: si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, ils feront quoi? Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Le mot régner ici est un mot souvent qui dérange les gens. Tu sais pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, on a un peuple en Christ, particulièrement au Gabon où nous sommes, où les gens ne sont pas habitués à entendre ce genre de termes. Quand tu commences à dire aux gens, tu es roi, les gens te regardent, mais de quoi tu parles? La Bible, du début à la fin, ne parle que de royauté. Dis avec moi la royauté. C'est pour ça que quand tu lis certains livres de la Bible, ça te passe au-dessus de la tête. Tu ne comprends pas. Nous, nous sommes nés, l'époque dans laquelle nous vivons, nous connaissons les démocraties. Président de la République et les oppositions qui se plaignent à tout va. Et tous nous, les étudiants qui font des années blanches. Tu parles de quel règne là? Il dit régner dans la vie. Régner dans la vie veut dire que, quelles que soient les circonstances et les situations qu'on a appelées à vivre dans la vie, on est maître, on règne dedans. On n'est pas sur terre pour subir la vie. On est sur terre pour vivre et manifester Christ dans toute sa splendeur. C'est pour ça qu'on est sur terre. On n'est pas sur terre pour vivre les malheurs, les souffrances, etc. Si aujourd'hui tu vis un certain nombre de souffrances et de malheurs, rends gloire à Dieu, mais refuse ça. Refuse ça. Prie et que Dieu t'ouvre les yeux pour voir comment tu peux te lever pour changer ça. Mais tu ne dois pas accepter la fatalité. Tu ne dois pas accepter la fatalité. On dit qu'aujourd'hui, oh, le pays est à terre. Moi, j'ai regardé les gens qui me disent ça. Je leur ai dit, le pays n'est pas à terre. Je refuse que d'entendre ça. Le pays n'est pas à terre. Arrêtez de me dire n'importe quoi. Si le pays est à terre pour vous, eh bien, c'est moi qui vais le relever. Amen. Le pays n'est pas à terre. Le pays est à terre parce que vous avez décidé d'être à terre. En fait, ce n'est pas le pays qui est à terre. Le pays est toujours là. La terre, elle n'a pas bougé, elle n'a jamais changé. C'est vous qui êtes à terre. C'est pour ça que vous avez l'impression que le pays est à terre. C'est vous qui êtes à terre. Vous êtes tellement bas dans votre mentalité que vous n'arrivez pas à saisir la grâce et les opportunités que Dieu vous offre de changer votre pays et de changer vos vies. Notre pays est rempli d'opportunités de toutes sortes. Et Dieu t'appelle, toi aussi, à briller et à accomplir des exploits avec lui. Pourquoi tu veux te comparer aux autres? Si les autres Gabonais dehors ont décidé d'accepter la fatalité, tu refuses ça, tu dis, moi, et alors? Moi, je ne suis pas comme les autres. Je suis unique. Dis-moi, je suis unique. Même les scientifiques ont prouvé que tu étais unique par ton empreinte génitale. Tu es unique. Donc, si tu es unique, c'est-à-dire que tu es appelé à faire des choses uniques. Tu es appelé dans un couloir unique. Personne ne te ressemble. Il n'y aura jamais quelqu'un comme toi après et il n'y a jamais eu quelqu'un comme toi avant. Car tu es unique. C'est pour ça que le matin, moi, quand je me lève, jamais je me compare à quelqu'un. Même quand je fais l'église, parfois il y a des gens qui me disent, oh, tu sais, il y a telle église qui fait comme ça, qui va. Je dis, laisse-moi tranquille, on est unique. Je fais ce que Dieu m'a dit de faire. J'ai la vision que Dieu a déposée dans mon cœur et j'écoute sa voix seulement. Et parce que je comprends ça et je l'accepte, alors Dieu dit, maintenant, toi et moi, on peut travailler ensemble. Amen. Nous servons un Dieu vivant. Nous ne servons pas un Dieu mort, hein. Nous servons un Dieu vivant. Oui, Dieu a fait certaines choses avec certaines d'autres personnes et il fera d'autres choses avec toi. Mais tu dois accepter ta position de fils héritier du royaume dont la faveur divine est sur toi. Amen. Dis avec moi la grâce surabondante.
La grâce surabondante
est cette grâce illimitée, inconditionnelle, que le Père déverse sur ses enfants. Et on a dit beaucoup de choses là-dessus. On a abordé ce sujet et on est arrivé à 21 caractéristiques qu'on est en train de voir une par une. La première caractéristique qu'on a vue, c'était que la grâce surabondante fait de toi un être humain rempli de la nature divine appelée la nouvelle création. Deuxième caractéristique, la grâce surabondante nous rétablit à notre statut de fils héritier dans le royaume. Troisième caractéristique, la grâce surabondante, une fois que tu rentres en contact avec elle par le Saint-Esprit, elle te donne à nouveau accès à tes droits légitimes de fils. Toutes les promesses qui sont citées dans la Bible, tu y as droit. Quatrième caractéristique, la grâce surabondante restaure notre intimité avec le Père que Adam avait perdu en Éden. Cinq, la grâce surabondante active les promesses divines dans notre vie. Quand tu étais dans le monde, il y a des choses auxquelles tu ne pouvais pas avoir accès. Des choses telles que la guérison, des choses telles que la faveur, la puissance, ce genre de choses. Aujourd'hui, en Christ, tu les as. Quand tu ouvres la bouche et que tu parles, il y a une puissance. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu n'avais pas ça avant, mais en Christ, tu l'as. 6. La grâce surabondante nous rétablit dans notre autorité de régent de la terre. 7. Elle écrit toute la loi divine dans notre cœur. 8. La grâce surabondante ouvre nos yeux pour voir la réalité du monde qui nous entoure. Avant le monde, tu ne le voyais, tu le regardais, mais tu ne voyais pas certaines choses. Et aujourd'hui que tu es en Christ, tu vois le monde autrement. 9. La grâce surabondante est la source dans laquelle nous puisons nos forces. Et 10. La grâce surabondante nous donne le pouvoir sur Satan et tous ses agents démoniaques. Amen. Et on va continuer. La 11e caractéristique, et aujourd'hui, ce que je vais aborder comme sujet, je vais dire un certain nombre de choses. Et je ne sais pas pourquoi Dieu m'amène dans cette direction. Et en fait, je pense que Dieu veut nous emmener dans cette direction, dans une dimension de surnaturel. Je me disais, Seigneur, il faut d'abord que certaines choses soient d'abord assises dans le cœur de ton peuple avant de dire certaines choses. Le Seigneur m'a dit, non. Dis-leur ça maintenant. On n'attend pas qu'un enfant de roi ait 18 ans pour lui dire qu'il est prince, fils du roi. On lui dit ça dès la naissance. Tu es prince. À l'âge de 18 ans, pendant que toi tu te cherches, lui marche la tête haute, prince. Il sait qui il est. Donc on lui dit ça dès qu'il naît. Fils du roi. Dis avec moi, je suis fils du roi. 11e caractéristique. La grâce surabondante augmente notre foi à la dimension du divin. Quand nous expérimentons une rencontre personnelle avec la grâce surabondante, elle nous donne une capacité surhumaine de croire au-delà de ce que nos yeux physiques peuvent voir. Elle nous fait voir un monde de possibilités. Dis avec moi un monde de possibilités qui nous entoure. En d'autres mots, tout est possible. Rien n'est impossible. Livre de Marc, au chapitre 9, au verset 23, il y a un gars qui vient vers Jésus et il dit, « Oh Seigneur, si tu peux, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus-Christ s'arrête et le regarde. Verset 23, il dit, « Si tu peux, trois petits points. Tu t'adresses à Jésus là. Si tu peux, trois petits points. Tout est possible à celui qui croit. À la mort de Lazare, Marie vient, « Oh Seigneur, si tu avais été là, il ne serait pas mort. » Marie, toute personne qui croit en moi ne peut pas mourir et vivra. Oui, je sais, qui va ressusciter au jour, au dernier jour, etc., à la résurrection. Et là, il fait, Marie, je suis la résurrection. Et l'autre vient, oh Seigneur, si tu avais été là. Il fait, oh, je suis la résurrection. Dis avec moi, tout est possible.
Tout est possible.
Regarde la prière que Paul fait. Paul fait une prière dans Éphésiens chapitre 1 au verset 18. Paul dit, c'est-à-dire Dieu, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, c'est-à-dire toi et moi. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il, la puissance en question, Il l'a déployé. Dis comment il l'a déployé. En Christ. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination. De toute autorité. De toute puissance. De toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Il est en train de parler de ta position en Christ. Ta position en Jésus-Christ, c'est à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Dis-moi, de toute domination.
Toute domination.
Quand tu es en Jésus-Christ, tu es au-dessus de toute domination. Tu sais, Paul parle ici de domination. Il ne perd même pas son temps à parler des sorciers. Tu sais pourquoi? Parce que les sorciers, dans le royaume des ténèbres, c'est le plus petit niveau. Il dit, nous, on se préoccupe des dominations qui ont plus d'impact. Les sorciers, laisse-les. Donc, si quelqu'un dans le village vient brûler les poulets ici, là, comme ils ont fait avant-hier pendant notre séminaire, oui, tu n'étais pas là. Nous, on est venus, il y a des gens qui sont venus brûler les poulets la nuit ici. Ils ont fait ça à la gare routière quand les opérants allaient marcher. Ils ont brûlé les poulets à la gare routière. Ils sont venus aussi. On arrive jeudi soir et puis on trouve. Copain me dit, mais pasteur, regarde toutes les plumes. On dirait qu'on a découpé des poulets ici, là. Des plumes partout, partout. Je leur ai regardé. J'ai dit, mais vous savez pas qu'on a fait bouger quelque chose là. On nous en veut maintenant. Donc réveillez-vous. Je ne dis pas tout ça pour te faire peur. J'ai dit tout ça pour qu'il y ait une prise de conscience dans ton esprit. Que le jour où tu décides de saisir ta destinée, il y a des gens qui vont s'opposer. Les gens qui veulent que ce monde reste dans l'esclavage vont s'opposer à toi, qui veut amener la lumière. Amen. Et Paul dit ici que ta position en Christ, c'est au-dessus de tout, dans les cieux. Vous vous rappelez les 10 royaumes que je vous ai montrés la dernière fois? Les 10 royaumes. Et l'homme, quand il a chuté le dernier, il était au plus bas. Même le royaume des virus, des maladies, lui fait ça dur maintenant. Mais quand tu es en Christ, Dieu te rétablit dans l'invisible de l'invisible, au ciel, à la droite de Dieu. Même les anges ne peuvent pas te voir là-bas. Dis avec moi la foi.
La foi.
Et quand tu comprends ta position, ça change ta perception du combat spirituel, de la réalité autour de toi, des forces des ténèbres, etc. Ça change ta perception. Et tu comprends qu'en fait, c'est comme si tu avais un manteau sur toi. Et quand tu es quelque part, tu es mis en lumière. Et plus on est nombreux, plus la lumière est grande. Amen. Tu comprends qu'en Christ, tu es au-dessus de tout. Et que eux, de l'autre côté, ils ne peuvent rien te faire. Ils n'ont pas le même niveau que toi. Ils n'ont pas le même niveau que toi. C'est pour ça que ça les dérange autant. Dis avec moi, j'ai la victoire en Christ.
J'ai la victoire en Christ.
Et chaque fois que tu manifestes la foi en Christ, pour une quelconque situation, c'est depuis cette position que tu dois le faire. Tu dois fermer les yeux et te voir au-dessus de tout. Quand tu pries pour quelqu'un, tu te vois. Tu sais, quand tu as déjà été, par exemple, à un rôle de responsabilité en entreprise, quand tu parles, les gens te disent, mais imagine quelqu'un qu'on a nommé directeur général, président directeur général d'une société, et puis à chaque fois qu'il vient voir les gens, c'est toujours, s'il te plaît, tu peux me donner la feuille qui est là, s'il te plaît. On va te regarder, on va dire, oh, monsieur le PDG, qu'est-ce qui vous arrive? S'il te plaît, s'il te plaît. Tu as déjà vu un PDG qui te dit, s'il te plaît? Il te fait, oui, monsieur. Tu sais, quand il prend son téléphone, il va appeler son directeur financier. Oui, directeur financier, venez ici tout de suite, s'il vous plaît. Il raccroche. J'ai voulu même dire, s'il vous plaît. Venez ici tout de suite. Faites ceci, faites cela. Quand tu vois le président de la République avec son aide de camp, il fait comme ça, on s'arrête. Il dit pas, s'il te plaît, prends mon sac, s'il te plaît. Non, il a autorité.
dans le livre d'Apocalypse, il a une apparition d'un ange. L'ange arrive devant Jean. Et puis Jean, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il se prosterne devant l'ange. L'ange fait, non, qu'est-ce que tu fais? Je suis à ton service. Je suis là pour te servir. C'est moi qui dois me prosterner devant toi. Je dis, ah bon? Et souvent, c'est comme ça qu'on se comporte face à la vie. On se prosterne alors que ce sont les autres en face qui doivent se prosterner. Quand on dit que tu as autorité là et que tu opères depuis une certaine position, même quand tu vas dans des endroits publics, tu es avec les gens, tu respectes les gens, tu honores les gens qui ont certains titres, etc. Tu rencontres des gens, tu serres les mains, etc. Mais tu dois être conscient de qui tu es. En Christ, tu es fils du roi. Dis avec moi, je suis fils du roi. La foi, la grâce surabondante augmente notre foi à la dimension du divin. Tu as un pouvoir que même de l'autre côté, dans les forces occultes, ils n'ont pas. Tu as un pouvoir que même Satan n'a pas. Est-ce que vous me suivez? Et ce pouvoir te permet aussi de créer avec ta volonté et de voir aussi loin que tu désires. Quand tu fermes les yeux et que tu vois quelque chose dans ton esprit, ça veut dire que tu es capable de l'amener à manifestation. Amen. C'est ce qu'on appelle la foi. Tu t'assois et tu rêves à ta vie. Tu rêves à la vie à laquelle tu aspires. Tu rêves à la vie à laquelle tu aspires pour tes enfants. Tu rêves. Vous n'avez jamais fait ça? Tu t'assois et tu rêves. Il faut se faire ça un peu. Vous faites ça très tôt le matin. Vers 5h du matin, 6h du matin, quand vous êtes dans le calme et vous rêvez à votre vie. Tu rêves à ce que tu vas accomplir dans le domaine de ton appel. Tu rêves de ton mariage. Tu rêves de ce que tes enfants vont devenir demain. Tu rêves du ministère. Tu rêves. Moi, si je commence à vous dire ce que je rêve pour le ministère, ah non, vous avez dit le pasteur, au Gabon là, comme l'autre dit. Et on ne sait pas si ce sera possible. Tout est possible.
Amen.
Amen. Il faut que tu comprennes que le Dieu auquel tu crois est un Dieu vivant et que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est le même Dieu que priait David. C'est le même Dieu que priait Moïse. C'est le même Dieu que priait Enoch. C'est le même Dieu que Élie a invoqué devant les 400 prophètes de Baal. C'est le même Dieu. Le même. Donc, quand tu es face à une situation, la Bible dit dans le livre de Hébreux que Moïse, quand il se tenait devant Pharaon, il ne regardait pas au Dieu visible de ce monde. Il regardait au Dieu invisible. Donc quand on le menaçait, il disait, tu me menaces. Celui qui est derrière moi là, c'est une machine, papa. Tu veux oser? C'est le même Dieu. Rien n'est impossible. Dis avec moi, rien n'est impossible. Cette grâce surabondante nous révèle notre véritable nature et la toute-puissance qui réside en nous par le Saint-Esprit. Ah. Tu sais, il y a un verset dans la Bible, je ne l'ai pas là, qui a transformé ma vie, c'est le livre de Romains chapitre 8 au verset 11, qui dit que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, ce même Esprit habite, dis avec moi, habite, habite en vous, il donnera aussi à vos corps mortels la vie. Le même Esprit, il dit Dieu, c'est cet Esprit-là qui arrive, il dit le même Esprit habite en toi. Je ne dis pas que toi aussi tu vas faire marcher les paralytiques, que toi aussi tu vas donner la vie aux aveugles. Non, ce n'est pas ça que je dis. J'ai dit que la toute-puissance du ciel réside en toi. Donc quand tu pries, sois convaincu de ça. Qu'est-ce que la foi? La foi, je la définis ainsi. Je pense qu'on aura par la grâce de Dieu un enseignement sur la foi beaucoup plus approfondi. Mais si on peut définir la foi, on peut dire que la foi est le moyen surnaturel qui nous permet de saisir le bras de la grâce divine et d'amener à l'existence dans le naturel ce que nous voyons dans le surnaturel. Dis avec moi, le surnaturel. La foi, c'est un bras divin. Tout ce que tu crois, tu peux le voir s'accomplir dans ta vie si tu le crois suffisamment fort. Tout ce que tu crois. Jésus-Christ dit, dans le livre de Marc, au chapitre 11, au verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Parfois, il y a des actes que tu poses, que tu dois poser avec la foi. Même, par exemple, quand tu donnes, quand tu donnes un nom à ton entreprise ou à une organisation, tu donnes le nom en fonction de ce que tu vois cette organisation devenir demain. Est-ce que vous me suivez? Tout ce que tu fais, tout ce que tu vois dans l'esprit te concernant, tu dois l'embrasser et l'accepter. Ce n'est pas parce que ce n'est pas manifesté aujourd'hui que ça veut dire que ce n'est pas réel. Ça devient réel d'abord dans l'esprit. Tu ne peux pas avoir quelque chose dans la vie si tu ne l'as pas d'abord possédé dans l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Tout ce que tu crois fort dans ton cœur, tu le verras s'accomplir dans ta vie. C'est une loi. Nous avons en nous la faculté divine de créer les choses par notre esprit. On le voit dans l'esprit. On le croit et on est convaincu que Jésus-Christ va le faire dans notre vie. Vous n'avez pas remarqué que ce genre de discours, même dans le monde, ils essaient d'avoir ce genre de discours, dans le New Age, dans le développement personnel, etc. Ils n'ont rien inventé. Satan, c'est un usurpateur. Il n'a rien inventé. Satan ne fait que prendre les choses de Dieu et puis il pervertit ça et il dit que c'est lui qui a inventé ça. Quand vous entendez dans le monde la loi de l'attraction, la loi de ça, la loi de la vision, etc., la loi de ceci, la loi de cela, tout cela, ce sont des lois du royaume. Et Satan ne fait que prendre ça et emmener ça dehors. Et il ment aux gens que Dieu n'existe pas et que l'homme est son propre Dieu. C'est faux. La foi, c'est voir tel que Dieu voit. Quand tu marches avec Dieu, il ne faut pas que tu regardes le monde comme les gens le voient, mais comme Dieu le voit. Notre problème, c'est que nous, notre regard, c'est un regard qui est corrompu. C'est un regard de défaite. C'est un regard d'incrédulité, de peur et de manque d'assurance. Rappelez-vous, pendant le séminaire, ceux qui étaient là, ce que j'ai dit quand j'ai raconté l'histoire de Gédéon. Dieu vient vers Gédéon au travers de l'ange et Dieu appelle Gédéon « vaillant héros ». Ah Seigneur, moi vaillant héros, je ne suis pas vaillant héros. Moi je suis le plus petit de ma famille, etc. Blablabla. Lève-toi, vaillant héros, et va délivrer Israël avec la force que tu as. Ah Seigneur, vraiment. Si c'est vrai, donne-moi un signe. Ah Seigneur, j'ai dit, Dieu met la main sur la tête. Et parfois Dieu, quand il te regarde, il met les mains sur la tête. Il met les mains sur la tête. Je te dis que parfois au ciel, Dieu, je suis sûr qu'il y a des doliprane divins. Parfois il doit prendre le doliprane, les enfants là me donnent des maux de tête. C'est pas possible, j'ai tout fait. Tu vois un peu le peuple juif d'Égypte, Israël, dans la Bible. Au bout d'un moment, Dieu était obligé de se mettre en colère. Tu sais, parfois, il y a des gens parfois qui te... Ils t'agacent tellement qu'un jour tu craques. Et puis tu dis, lui et moi aujourd'hui, c'est fini. Un jour, Dieu aussi a dit, le peuple là, c'est fini. Tous ceux qui ont moins, tous ceux qui ont 20 ans et plus, ils vont mourir. Moïse a supplié, Dieu a dit, c'est fini. Ils n'ont qu'à tous mourir. C'est la génération de José qui va rentrer en Canaan. Parce qu'il est fatigué, Dieu. Toujours en train de remettre en question la puissance de Dieu. Il ne faut pas être comme ça avec le Seigneur. Tout problème que tu rencontres, si je peux dire ça ainsi, il n'y a pas de problème. En gros, ton problème, ce n'est pas le diable. Ton problème, ce n'est pas les gens. Ton problème, c'est ton ignorance. C'est ce que tu ne sais pas qui te détruit. Quand tu es face à une situation, tout ce qui te manque, c'est la connaissance pour résoudre le problème. C'est juste ça. Ton problème, ce ne sont pas tes parents qui t'ont bloqué. Ton problème, ce n'est pas un sorcier qui a lancé un fusil nocturne contre ta maison. Ton problème, ce n'est pas que tu as hérité d'une malédiction héréditaire de la famille. Tout ça là. Ou bien qu'on t'a mangé. Ton problème, ce n'est pas ça. Ton problème, c'est ton ignorance. Ton ignorance. l'ignorance, c'est ta montagne. Hein? Et pour la surmonter, tu dois entrer en possession de la vérité. Que quelqu'un dise avec moi la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne la lumière. Elle vient et rallume en nous ce qu'on appelle la connaissance divine en nous. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et c'est la connaissance de la vérité qui libère la foi dans l'esprit. Si tu ne connais pas quelque chose, tu ne peux pas être rempli d'assurance face à la situation. C'est parce que tu reçois la connaissance que la foi naît. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut avoir soif de la connaissance. Plus tu connais la parole de Dieu, plus tu comprends la parole de Dieu, et plus ta foi va grandir. Amen. Chaque fois que tu acquiers de la connaissance sur ta vie, sur ton identité et sur Dieu, non seulement tu gardes l'ennemi de pied, hein, mais en plus, la lumière de Christ en toi, elle grandit. C'est pour ça que vous avez déjà entendu parler de certains hommes de Dieu, quand ils arrivent quelque part, le gars, il n'a encore rien fait. À peine il rentre dans la salle, pouf, les gens commencent à se mettre. Les démons, pourtant, il est juste rentré. Il y a des gens, ils ont vu un homme de Dieu. Les larmes de son corps, etc. Parce qu'il est à une dimension où la lumière qu'il dégage, là, ça touche les gens. Si, par exemple, regarde, Jean 1, 5 nous dit, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lumière qui est en toi, que tu émets, plus la vérité prend place dans ton cœur, plus elle grandit. Parce que plus ton esprit est libéré, plus ta foi grandit. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. En Christ, nous sommes des lumières. Et nous émettons de la lumière partout où nous allons. En d'autres mots, quand tu arrives quelque part et qu'il y a quelqu'un qui est dans l'occultisme, par exemple, au moment où tu rentres dans la salle, par exemple, tu travailles dans une entreprise, et il y a quelqu'un dans la salle où tu travailles qui est dans la sorcellerie, je t'assure, tu vas le déranger très sérieusement. Si tu es quelqu'un qui prie, tu le déranges. Ta présence juste l'énerve. Mais si ta lumière est petite et qu'il discerne que ta lumière est petite, il va te combattre. Et il peut même te vaincre si tu es immature spirituellement. Mais quand ta lumière est grande, à peine tu rentres, tu es là. Il se lève, il est obligé de partir. Il ne peut pas rester en ta présence. Amen. C'est pour ça qu'on doit émettre une grande lumière. Et cette lumière-là, on la fait croître par la consécration dans la parole de Dieu. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus ta lumière. Regarde ce que la Bible nous dit au sujet de Moïse. La Bible nous dit dans Exode que Moïse passait tellement de temps dans la présence de Dieu qu'il en était arrivé à un point où cette lumière maintenant se voyait sur son visage. Vous ne vous rappelez pas? C'est pour cela que, en ta présence, toute personne qui est dans les ténèbres doit, toute personne qui est dans les ténèbres doit s'éloigner. Amen. Et c'est pour cela que plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu dois comprendre que Christ, c'est tout ce qu'il attend de toi. Que tu puisses comprendre ces choses-là pour qu'il puisse être révélé. C'est pour cela que Paul dit dans Galates 2:20, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul en était arrivé à un niveau, même Pierre, où en marchant, les gens touchaient juste le pan de sa robe et les gens étaient guéris. Parce qu'ils en étaient arrivés où la lumière était tellement devenue intense qu'elle avait même pris possession de ses vêtements. J'ai vu certains serviteurs de Dieu, je me demandais, mais pourquoi ils s'habillent toujours en blanc? C'est parce qu'ils sont arrivés à un tel niveau d'onction et de grâce que même leurs vêtements maintenant doivent être possédés par cette lumière-là. Amen. Bon, si le pasteur lui conduit un jour débarque ici en bleu, il dit, pasteur, c'est quoi? C'est une nouvelle mode? Chaussures blanches, costume blanc, cravate blanche, chemise blanche. Vous allez dire, ah, c'est devenu bizarre maintenant l'église ici. Hein? Le pasteur s'habille en blanc, tout le monde commence à s'habiller en blanc. Les gens vont rire. Amen. Dis avec moi la foi. Jésus-Christ dans la Bible nous révèle deux niveaux de foi. Jésus-Christ nous parle de la petite foi et de la grande foi. Il nous dit dans Matthieu 8, 26, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer et il eut un grand calme. Dans la version français courant, qui nous donne une meilleure définition de la petite foi, il dit, pourquoi avez-vous peur? Comme votre confiance est faible. Alors il se leva, parla sévèrement au vent et à l'eau du lac, et il se fit un grand calme. La petite foi, c'est le premier niveau de foi qui te permet de croire en Dieu. Juste de croire, mais pas d'opérer avec Dieu. Si tu veux opérer avec Dieu, ta foi ne doit pas être faible. Parce que la petite foi, la Bible dit ici que c'est une faible confiance. Pas confiance, il ne dit pas confiance en Dieu. Confiance en vous-même. Confiance en ce en quoi vous croyez. Confiance que ce que vous dites là, ça va s'accomplir. Si tu n'as pas confiance que ça va se faire, ça ne va pas se faire. C'est pour ça que notre gros problème, c'est l'incrédulité. Les gens ne croient pas. Quand les gens viennent ici, ils regardent l'église, ils ne croient pas. Moi, j'ai vu ça dans les regards et les comportements de certains. Les gens, il y a beaucoup qui ne croient pas. Mais tu vas être bluffé, mon ami. Tu vas être bluffé. Les gens ne croient pas. Avant de quitter Paris, il y a quelques années, quand je rentrais au Gabon, le Seigneur m'a dit, tu rentres. Sache que tu vas faire un certain nombre d'activités. Et le ministère va te permettre de faire ça, 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 ça. Et quand j'ai vu ce que le Seigneur m'a montré, il m'a dit, crois juste. J'ai dit, mais Seigneur, comment, tais-toi. Le comment, ce n'est pas ton problème. Crois juste. Et la plupart de ceux que le Seigneur m'avait montré, une bonne partie déjà, je l'ai vécu ici. Je vois juste comment les choses se mettent en place. Tac, 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 tac. Je vois comment les portes s'ouvrent. Tac, tac. J'ai dit, oh. Tout ça, ça. Dieu dit, c'est le processus qui est en train de se mettre en place. Mais quand j'ai quelqu'un à côté de moi qui ne croit pas, je le regarde, je dis, éloigne-toi de moi. Parce qu'il y a une dose de poisse là qui est sur le point de tomber. Je n'ai pas envie de la recevoir avec toi. Il faut t'éloigner des gens qui ne croient pas. Amen. Éloigne-toi des gens qui ne croient pas en toi. Même si c'est des gens de ta famille, éloigne-toi d'eux. Amen. Moi, aujourd'hui, je t'assure, j'ai des gens de ma famille, je les aime beaucoup, mais chaque fois que je suis à leur présence, il y a une atmosphère d'incrédulité, d'impolitesse qui m'irrite. Donc, je suis obligé de me lever. Et après, un jour, ils me disent, toi, là, depuis un certain temps, maintenant, tu joues les dieux, tu t'éloignes de nous, etc. Dans ma tête, le Saint-Esprit me dit, tu es un serviteur de Dieu. Amen. Éloigne-toi d'eux. Amen. On n'est pas dans la chair, là. On est dans l'esprit, là. Éloigne-toi d'eux. On ne fait pas dans les émotions, là. Avance! Et Jésus-Christ nous parle, nous dit que si vous voulez commencer à opérer avec le Seigneur, vous devez augmenter votre foi. Matthieu 8, au verset 8, dit, le centenier, c'est l'histoire du centenier romain, qui dit à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fuit dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Dis avec moi une grande foi. Le jour où tu veux commencer à marcher avec le Seigneur. Ce n'est pas l'histoire des slogans. Nous serons la tête et non la queue. Je vais faire ceci dans le nom de Jésus, etc. Il faut que tu crois que ça va se faire. Il faut que tu le crois. Tu veux que je te donne des exemples. C'est comme quelqu'un, un garçon, un jeune homme, il est là, il vient à l'église ou bien il est quelque part en vue, je ne sais pas. Et là, son regard tombe sur une femme. Il parle avec elle. Et pendant qu'il est en train de parler avec elle, son cœur se met à battre. Il regarde la femme. Sa perception de la femme, il regarde la femme et l'autre me dit, hé, finalement, elle n'est pas si mal que ça. Et en discutant avec elle, elle lui révèle qu'elle est en Christ, elle sert le Seigneur, elle est consacrée, etc. Il y a un feeling qui s'installe. Il est content de la connaître, etc. Et là, dans l'esprit, la femme se lève, elle est en train de faire autre chose. Et dans l'esprit, il la regarde, il entend la voix de Saint-Esprit qui dit, c'est ta femme. Ah bon? C'est ta femme. Os de tes os, chair de ta chair. Maintenant, lève-toi et prie. Tu vas la voir le lendemain, tu l'invites. Bonjour, hier, je ne t'ai pas demandé, mais j'aimerais qu'on puisse se revoir après le travail, juste aller prendre un verre ensemble. Non, ça ne m'intéresse pas. Et puis tout de suite, Seigneur, oh Seigneur, tu avais dit que c'était ma femme, non. Comment elle peut me boucher comme ça, Seigneur, etc. C'est ta femme, bouge-toi un peu, tu retournes la voix. Je t'ai déjà dit que je ne suis pas intéressé. Et d'ailleurs, j'ai dit à quelqu'un, c'est ta femme. Je suis déjà avec quelqu'un. Et on prévoit d'aller bientôt se... Oh, Seigneur. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu renonces. Tu te mets à prier. Et quand tu pries, tu rends grâce à Dieu et tu dis, Seigneur, cette femme, c'est la mienne. Et par la grâce de Dieu, elle sera ma femme demain. Mais tu persistes aussi. Tu persévères aussi. Tu ne la lâches pas. Mais un jour, tu vas devoir te tenir ferme par la foi et la regarder dans les yeux et lui dire, tu es ma femme. Elle va te dire, hein, pardon, tu es ma femme. Je te dis que toi, tu penses qu'elle va genre s'énerver. Quand elle va partir là, c'est comme si ça fait tchou. Elle dit, jamais un homme m'a parlé comme ça. Je te dis que la phrase là, ça va tourner dans sa tête, tourner. Et plus jamais tu l'invites, tu la laisses maintenant. Et un jour, réflexion faite, finalement j'accepte ta proposition. Je ferme la parenthèse. C'est un exemple parmi tant d'autres. Amen. Gloire à Dieu. Que quelqu'un dise la foi. Et enfin, on va finir, parce que je ne pense pas que je pourrais finir tout aujourd'hui, hein, faute de temps. La deuxième caractéristique, la grâce surabondante nous fait opérer à ciel ouvert d'une manière surnaturelle sur la terre. Dis avec moi le surnaturel. La grâce surabondante est surnaturelle. Elle est supérieure à la réalité de ce monde. Dès que tu es en contact avec elle, la grâce surabondante, Christ, le surnaturel s'active dans ta vie et tout le gouvernement des cieux est mis à ta disposition. Toute la puissance du ciel maintenant est à ta disposition. Paul dit, verset que j'aime à nouveau encore répéter, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Parole vivante, loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Dis avec moi, je suis surabondamment béni.
Je suis surabondamment béni.
Opérer à ciel ouvert veut dire opérer dans une dimension surnaturelle qui dépasse l'imagination. Dieu veut qu'on opère à la dimension divine et non pas à la dimension humaine. Qu'est-ce que j'entends par opérer à la dimension divine? Ça veut dire que tu dois commencer à poser des actes surnaturels, des actes de foi, des choses auquel tu aspires, tu dois commencer à poser des actes. Voire même qu'on te prenne pour un fou. S'il faut que tu débloques une somme d'argent et que tu ailles le semer pour obtenir quelque chose, fais-le. S'il faut que tu ailles rencontrer quelqu'un, aie l'audace qu'il faut et va rencontrer cette personne et parle-lui. Mais pose des actes de foi. Le surnaturel ne s'active pas comme ça. C'est comme par exemple, imagine que Dieu te parle un jour. Dieu te dit, tu es évangéliste. Ok? Dieu te dit, tu es un évangéliste et je vais t'utiliser puissamment. Et au travers de ta vie et de ton ministère, je vais guérir des malades dans tous les sens. Tu as le même manteau que Renard Bonquet. Et Dieu te dit, maintenant, chaque fois que tu fais tes réunions, prie pour les malades, pour qu'ils soient guéris. Et prends les cas compliqués. Prie. Ne commence pas à voir les cas compliqués. Non, non, Seigneur. Ah non, non. Je préfère prier pour les trucs. Alors, que ceux qui ont des problèmes de cœur, tout ça, soient guéris de leur cœur. Alléluia, alléluia, etc. Pendant ce temps, il y a un gars qui est là, il est paralytique, il faut prier pour lui. Tu le regardes. Non, non, Seigneur, pas lui. Non. Prie pour lui. Prie pour lui. Je lisais un livre de Kenneth Hagin comme ça. Kenneth Hagin, qui a déjà entendu parler de Kenneth Hagin? Un gars qui a marqué son temps, tellement Dieu l'a utilisé puissamment. Et dans le livre en question, Dieu lui dit, pendant une croisade, il y a un gars là-bas qui est assis sur une chaise, prie pour lui. Et le gars, il dit, il tourne, il prie pour les gens, il impose les mains, etc. Et Dieu lui dit, le Saint-Esprit lui dit, je t'ai dit de prier pour ce jeune monsieur-là. Et lui, il ne veut pas. Et là, il entend la voix du Saint-Esprit qui dit, si tu ne pries pas pour lui, ce qui va t'arriver après, bon, je n'ai pas envie de mourir, je vais prier pour lui. Prie pour lui. Et quand il prie comme ça, il prie, la personne ne se lève pas, il prie. La personne ne se lève pas. Il dit qu'il avait tellement honte devant les gens qu'il arrête de prier. Et puis, bon, c'est Dieu qui fait. Tout ça. Mais il avait honte. Et il se tourne, il se lève et il retourne sur l'estrade. Genre, bon, il va reprendre son enseignement, tout ça. Et au moment où il baisse la tête, il retourne. Il entend les gens crier. Au pire, comme ça, il se retourne. Il voit le monsieur se lever, il est en train de marcher. Oh, alléluia! Et là, le Saint-Esprit lui dit, tu as honte, pourquoi? Parce que tu penses que ça vient de toi. C'est pas toi qui guéris, c'est moi qui guéris. Et tu dois persévérer. Je lisais une autre histoire de T.L. Osborne. T.L. Osborne, il avait prié, il priait au tout début de son ministère, il priait pour les malades, il priait. Les gens ne guérissaient pas, Dieu. Les gens ne se levaient pas, il n'y avait rien qui se passait. Au bout d'un moment, il commençait à voir les visages des gens français, ils disaient, arrête tes bêtises là. Arrête l'histoire là, il n'y a rien qui se passe ici là. Arrête de toujours dire Jésus va te guérir et les gens repartent malades. Arrête de toujours dire ça. Donc il commençait à être gêné maintenant. Et un jour, il avait tellement mal avec sa femme, son épouse. Il est parti avec son épouse et puis ils sont rentrés dans la chambre et ils se sont agenouillés. Ils ont commencé à pleurer tous les deux. Et ils ont commencé à dire, Dieu, pourtant tu as dit que les malades devaient être guéris au travers de nous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne guéris pas les malades? Oh Seigneur, nous t'en supplions. Glorifie ton nom. Hein? Glorifie ton nom. Et ils ont pleuré abondamment devant le Seigneur. Il a quand même retrouvé la force de repartir à la prochaine croisade. Et à la prochaine croisade, le Saint-Esprit dit, prie encore. Bon. Ok, là je vais encore taper la fiche, mais bon, je vais encore le faire. Et là, quand il prie, premier malade à qui il impose les mains, pouf, voir comment le gars se lève. Il voit la puissance de Dieu qui se manifeste. Oh, il remet là-bas. Il dit, Dieu est vivant. Voilà. Et en fait, Dieu lui disait, le problème, c'est que tu renonces vite. Il faut que tu persévères. Ce n'est pas parce que ça ne se fait pas tout de suite que ça veut dire que je ne suis pas là. Le problème, c'est que ta foi est encore trop petite. Elle doit grandir. Amen. Elle doit grandir. Gloire à Dieu. Le surnaturel. Dis avec moi le surnaturel. Le surnaturel. Oh oui. Donc, dès ta naissance spirituelle, le ciel a été mis à ta disposition pour pourvoir à tous tes besoins. Ce qui caractérise un fils de Dieu, et c'est pour cela que la Bible l'appelle ambassadeur, dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 20, c'est qu'un ambassadeur ne demande rien. Tout est mis à sa disposition. Quand il se déplace, le ciel l'accompagne. 2 Corinthiens 5, 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Il parle de toi ici. Hein. Français courant dit, nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ. je vais te donner une information que certainement tu n'as pas. C'est que mon papa a été ambassadeur du Gabon pendant des années. Donc, quand il dit ça là, je comprends. Parce que je sais que je me rappelle, chaque fois qu'on voyageait avec papa, on ne faisait pas la queue au contrôle de police comme les autres. Nous, il y avait une entrée, il y avait écrit « personnalité diplomatique ». Un jour, je travaillais à Paris, il y a quelques années, et là, l'entreprise organise un voyage au Maroc. Un voyage pour une formation, etc. Donc, il y a tous les salariés de l'entreprise qui partent et tout. On était une bonne trentaine, etc. Et quand on arrive à l'aéroport de Roissy, il y a tous les gens qui font la queue et puis eux aussi se mettent à faire la queue aussi au contrôle de police. Et juste à côté, il y a une porte qui a écrit « personnalité diplomatique ». Et moi, avec mon sac, je rentre. Personnalité diplomatique. Tous ils se mettent à sursauter. « Allez, qu'est-ce que tu fais ? Va pas là-bas. » Je dis « Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Calmez-vous, là, c'est quoi ? J'ai le droit de passer ici. »« Mais non ! Personnalité diplomatique !» Je le regarde. « Mais je suis une personnalité diplomatique !» Ils m'ont regardé sans rire. Je leur dis, je suis une personnalité diplomatique. Et là, il y a deux policiers blancs qui viennent. Ils viennent, bonjour monsieur, parce qu'ils voient un petit négro qui veut rentrer personnalité diplomatique. Ils se disent, lui, il ne peut pas passer là. Bonjour monsieur, pouvez-vous nous montrer votre passeport, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur. Je serai un beau passeport rouge, tenez. Quand ils voient le passeport, merci, vous pouvez y aller. Il y avait écrit dessus, fils de l'ambassadeur dignitaire du Gabon. Mais tous mes collègues travaillent là. Donc tu es fils d'un ambassadeur? J'ai dit ouais. Et me voilà les mains dans les poches, je rentre. De l'autre côté, derrière la vitre, je les attendais. Au salon VIP. Donc tous, quand ils ont passé le contrôle, ils étaient dans les salons, il y avait tout le monde, avec des chaises un peu déchirées, tout ça là. Moi j'étais salon VIP. J'étais là, je suis allé au bar, je me suis pris un petit jus, j'étais là. Et puis tous de nous, ils me regardaient. Et le boss de l'entreprise arrive. Qu'est-ce que Luc fait là-bas, voyons? Ah, monsieur, il est personnalité diplomatique, apparemment. Il n'a le droit d'être là-bas. En fait, le papier là, que j'avais de mon papa me rendait personnalité diplomatique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc quand la Bible dit ça de toi, tu comprends mieux que le ciel est à ta disposition. Les anges sont à ta disposition. Toute la puissance des cieux est à ta disposition. Amen. Dis avec moi, je suis un ambassadeur pour Christ. Le surnaturel, pour finir, est notre racine en Christ. Nous sommes enracinés dans le surnaturel et le miraculeux. La Bible dit que nous ne sommes pas du monde, ce qui veut dire que nos ressources ne dépendent pas de cette terre. Mais elles dépendent du ciel. Jésus-Christ a dit, faites-vous des trésors dans les cieux. Parce que c'est là-bas que vos trésors sont. Pas sur la terre. Un fils de Dieu ne regarde pas aux moyens qui sont dans le monde, mais à ceux que le ciel met à sa disposition. Est-ce que tu as déjà vu? La semaine dernière, j'ai raconté l'histoire de la voiture. Parce que pendant un bon moment, je voulais aller prendre un crédit pour m'acheter une voiture. Fils, un ambassadeur ne prend pas de crédit pour s'acheter une voiture. On lui donne une voiture. C'est pour ça que ma femme et moi, un jour ma femme me dit, chérie, je suis sûr qu'un jour, on va nous donner une maison. J'ai dit, ah, c'est quelle foi ça? Mais toi, tu ne crois pas? On va nous donner une maison. Oui, je crois. Hein? Je ne dis pas que c'est ta maison que tu vas nous donner. Ce n'est pas ça. Mais je crois que, par la grâce de Dieu, nous arriverons à une dimension où ce genre de choses, ça viendra tout seul. Amen. On ne souffrira pas pour avoir ça. Tu travailleras, oui. Tu planteras des semences, oui. Tu vas bâtir des choses avec le Seigneur, oui. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, tu vivras de longs jours et tu ne souffriras pas pour avoir ces choses-là. Parce que le Seigneur te les donnera. Amen. Au moment où tu sors l'argent pour payer la maison, tu sauras que cet argent, c'est Dieu qui a mis ça entre tes mains pour l'acheter. Et tu ne transpireras pas pour avoir ça. Est-ce que tu le crois? Je vous assure, si vous croyez ça, tous ici, demain, on arrivera à une dimension où nous tous, on sera propriétaires de nos maisons. Nous tous.
Oui, acclame le Seigneur.
Il faut que tu crois ça. Et ces choses-là, elles sont réelles. On les voit dans notre esprit, on les possède et on sait que ça se fera. Ça se fera. Donc, un fils de Dieu ne regarde pas aux sources de la terre, mais regarde aux sources du ciel. Notre fondation, la fondation de notre foi en tant que membre du corps de Christ, c'est le miraculeux. Regarde ce que Paul nous dit. Paul dit, vous avez été dans Éphésiens 2 au verset 20, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous avez été édifiés, c'est-à-dire Dieu vous a pris et vous a bâti dessus, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Maintenant, ce que je vais te dire est très important. Les apôtres, c'est qui? Les apôtres, ce sont des personnes que Jésus-Christ avait spécialement sélectionnées et qui ont reçu ce que j'appelle le miraculeux comme fondement dans leur vie et dans leur foi. Et le miraculeux accompagnait tous leurs actes. Vous me suivez? Et aujourd'hui, le Dieu que nous servons, l'Éternel, nous demande de croire que nous aussi, nous sommes bâtis sur les mêmes fondements. Et que le miraculeux fait partie aussi de notre vie. Vous me suivez? Nous sommes bâtis, nous avons été édifiés sur les fondements des apôtres. La vocation des apôtres était de faire des miracles. Et le Seigneur, Marc 16, dit qu'il confirmait sa parole. Quand ils annonçaient la parole, ils confirmaient sa parole. Parce que c'était leur appel. Et ta destinée, ma destinée, est attachée au miraculeux. C'est pour cela que tu dois t'attendre à une dimension miraculeuse dans ta vie. Tu dois t'attendre à une dimension de prospérité dans ta vie que les autres n'ont jamais vue. Tu dois t'attendre à ça. Je crois que Dieu va élever des personnes dans cette génération et nous en faisons partie, des personnes qui vont tellement prospérer que les gens diront, ils ont volé l'argent là-haut. Et quand ils vérifieront, ils verront que ce sont des gens qui ont travaillé dignement, qui ont accompli des choses et qui se sont enrichis dignement. Et tu en fais partie. Ne regarde pas à ton apparence d'aujourd'hui, tu es jeune, tu n'as encore rien, etc. C'est ton appel, c'est attaché sur ta vie. C'est pour ça que quand Dieu va commencer à mettre des rêves dans ton cœur, ne dis pas c'est trop grand. Lance-toi, parce que c'est ton appel. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques mois, avec qui je suis en contact encore aujourd'hui. Le gars, il me dit, un jour, Dieu m'a révélé que je devais faire de la politique. Et je me suis lancé, etc. Et ça commençait à prendre. J'ai commencé à faire des campagnes, etc. J'étais avec telle et telle personnalité dans le pays, etc. Et puis, un jour, je suis parti en province. J'ai parlé. Et les foules étaient vraiment... ont applaudi. Les gens étaient contents. Les gens me félicitaient, etc., etc. Mais après, j'ai essuyé de gros, gros, gros problèmes, de grosses oppositions. On a même failli me tuer. Et je dis, aujourd'hui, tu fais quoi? Je me suis calmé. J'ai dit, mais tu m'as dit au début que Dieu t'avait révélé que tu devais faire ça, non? Écoute, on a voulu me tuer, je me suis calmé. J'ai dit, je vais d'abord prendre un peu du recul et puis je vais, tu sais, la politique au Gabon, c'est compliqué. Hein? C'est. J'ai dit, tu es sur le point de rater ta destinée. Si c'est Dieu qui t'avait dit de faire ça et que quand tu t'es... Je lui ai dit, quand tu parlais dans le micro, comment tu te sentais? Il disait, c'était mon truc. J'étais dans mon élément. J'ai dit, c'est ton appel. Et sache que parce que c'est ton appel et que tu marches dans ton couloir, même si on veut te tuer, on ne te tuera pas.
Amen.
Jésus au Christ, on a voulu le tuer, non? Personne ne l'a tué. Tu te lèves dans la prière et tu dis, ma vie en Christ, je la donne à qui je veux et je la reprends quand je veux, comme Jésus. Ma vie, j'ai décidé de la donner à Jésus. Et je partirai de cette terre le jour où Dieu me dira, tu partiras. Donc l'ennemi essaiera de te faire peur, tout ça. Mais il ne te vaincra pas. Il te fera la guerre, mais il ne te vaincra pas.
Amen.
Amen. Et le surnaturel, le miraculeux, est attaché à notre vie. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Nous sommes, oui, quotidiennement, confrontés à toutes sortes de forces spirituelles qui veulent nous intimider, qui veulent t'intimider et t'empêcher d'avancer. Mais tu dois croire que la vision que Dieu a mise dans ton cœur, il va l'accomplir dans ta vie. Lève-toi, travaille. Lève-toi, pose des actes et vas-y, fonce. Le Seigneur est avec toi. Amen.
Amen.
Nous luttons contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde méchant. Et c'est dans le surnaturel que tu traites avec eux, que tu prends possession de ton territoire en Christ. Quand ces dominations-là te montrent qu'elles veulent s'opposer à toi, tu dois rester ferme et dire « Je possède ma destinée au nom de Jésus-Christ. » Comment activer le surnaturel? Un, il faut que tu crois que le surnaturel est pour toi. Tu ne peux pas commander quelque chose auquel tu ne crois pas. Et tu dois croire que tu as été appelé pour ça. Tu dois le croire. Dis avec moi, je crois.
Je crois.
Tu dois l'accepter. Et deux, il faut que tu ajustes ta mentalité à cela. Il faut que tu apprennes à penser comme Christ pense. Regarde ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que... La Bible nous dit, je ne sais plus dans quel verset, je crois que c'est dans le verset 2 Corinthiens, je vais le retrouver. Il dit, nous, 2 Corinthiens, je ne sais plus combien, il dit, nous avons la pensée de Christ. Rappelez, nous avons la pensée de Christ. Et tu dois apprendre à ajuster ta mentalité à ce que Dieu dit. C'est pour cela que tu dois apprendre à cultiver ton temps dans la parole de Dieu. Pour tout le temps, être au diapason. Apprendre à écouter des messages, des enseignements qui te parlent comme ça de ton identité, qui te bousculent. Le matin, tu te lèves, tu te galvanises dans la prière, dans la parole de Dieu et dans des paroles qui te poussent à dire « Ok, c'est bon, je vais y aller, je vais y arriver. » Amen. C'est à ça que tu es appelé. Et par la grâce de Dieu, Dieu le fera dans ta vie et tu brilleras au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je voudrais maintenant que tu inclines la tête et que tu pries. La grâce surabondante augmente notre foi à la dimension du divin. Et elle nous amène à opérer à ciel ouvert d'une manière surnaturelle sur la terre. Le surnaturel fait partie de notre vie. Et le Seigneur m'a dit qu'il faut que tu parles de ces choses parce que je suis sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire et d'unique au travers de ce peuple. Ce peuple a un appel sur lui. Et Dieu est sur le point de faire des choses avec toi. Crois. Tu ne manqueras de rien. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu raconteras les œuvres du Seigneur. Tous les biens matériels, ce n'est que le bénéfice. Les récompenses. Ne cours pas après ces choses. Travaille. Consacre-toi. Travaille à ton appel. Travaille à ta vie et la foi. Si tu passes par des moments difficiles en ce qui concerne ton foyer, crois que Dieu va le restaurer et que ton foyer brillera demain. Si tu passes par des moments de difficulté dans tes entreprises, crois que Dieu va te relever et que demain tu brilleras. Et tu seras une source de bénédiction pour le royaume de Dieu dans cette nation. Crois-le. Ne crains pas. Ne crains pas et la foi. Parce que la Bible dit que nous sommes, Dieu nous a édifiés sur le fondement des apôtres. Les apôtres étaient attachés au miracle. Le miraculeux était attaché à leur destinée. Et le miraculeux accompagnait leur vie. Crois que le miraculeux fait partie de ta vie. Car tu es appelé à opérer dans le miraculeux. Tu es appelé à opérer dans le surnaturel. Et par la foi en Christ, nous activons le surnaturel sur nos vies et sur la maison du bâtisseur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour l'œuvre que tu as commencée en nous et que tu rends parfaite, Seigneur. Oui, Père de grâce, c'est ce à quoi tu nous appelles et nous l'acceptons. Nous ne regardons pas aux choses visibles, nous regardons aux choses invisibles. Nous ne regardons pas aux choses temporaires, mais nous regardons aux choses éternelles qui sont attachées à nos vies, Seigneur. Si nous sommes fils du roi et ambassadeurs de Christ, alors, Seigneur, nous croyons que le ciel est à notre disposition, que les anges sont à notre service. Nous le croyons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare, Seigneur, sur ton peuple, Seigneur, une moisson, Seigneur, surabondante, une moisson particulière, une moisson miraculeuse, Père. Je crois de tout mon cœur, Père, au nom de Jésus-Christ, que tu vas lever des hommes et des femmes, Seigneur, qui vont être des instruments entre tes mains, pour témoigner de l'évangile dans cette nation. Tu vas lever de ce peuple des évangélistes qui feront des choses extraordinaires avec toi, des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des hommes d'affaires, des hommes et des femmes, Seigneur, consacrés, radicaux pour Christ, qui vont travailler à la maison de ton royaume sur la terre. Je le crois dans le nom de Jésus-Christ. Je crois au surnaturel, nous croyons au surnaturel. Nous croyons à la puissance miraculeuse de Christ, Seigneur. ce qui est appelé miracle est miracle pour les hommes de ce monde, mais c'est appelé normal pour toi. Alors Seigneur, nous croyons, Père, que le même Dieu qui a utilisé Moïse, le même Dieu qui a utilisé David, le même Dieu qui a utilisé Enoch, le même Dieu qui a utilisé le prophète Élie, c'est le même Dieu que nous servons et auquel nous croyons. Et je crois, Seigneur, que tu es sur le point de faire des choses extraordinaires au milieu de ton peuple. Merci pour toutes les guérisons que tu suscites au milieu de ton peuple. Aucune stérile dans ta maison, aucun aveugle dans ta maison, aucun sidéaire dans ta maison, aucune personne qui a le cancer dans ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, parce que nous voyons ces choses arriver, Seigneur, au milieu de nous, Père. Toute personne qui entrera, Seigneur, et qui sera au contact de la grâce surabondante à la maison du bâtisseur, et qui a été diagnostiquée d'un sida, Seigneur, guérira de manière miraculeuse, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne, Seigneur, qui entre en contact avec la maison, avec la surabondance de Christ, à la maison du bâtisseur, et qui a été diagnostiquée d'un cancer des seins ou de l'utérus, guérit de manière miraculeuse, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que ta grâce, Seigneur, libère, délivre toute personne oppressée, Seigneur, de démons. Toute personne oppressée, Seigneur, elles sont délivrées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu le fais et parce que nous croyons que nous sommes fondés, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alors, Seigneur, nous voyons ces miracles se faire dans ta maison, Père, au nom puissant de Jésus. Parce que tu es le bâtisseur. Toute personne qui se lève dans la sorcellerie pour venir nous empêcher d'avancer, pour empêcher nos progressions, elles se rendent compte combien les terribles de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et ils sont confondus au nom puissant de Jésus-Christ. Toute domination, Seigneur, qui se lève pour empêcher, Seigneur, notre croissance, nos progressions, ils sont vaincus dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Nous appelons à l'existence ce qui n'existe pas dans ce monde. Et nous appelons du nord, du sud, de l'est et de l'ouest toutes les brebis qui appartiennent à cette église. Nous les appelons en nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu le fais. Aucun malade dans ta maison, aucun sidéaire dans ta maison, aucun cancer dans ta maison, aucun chômeur dans ta maison. Merci parce que tu pourvois aux besoins de tous. Père de grâce, au nom de Jésus, tu le fais et nous le croyons au nom de Jésus. Parce que nous croyons que tu le fais, tu l'as déjà fait. Merci pour la foi que tu augmentes dans nos cœurs. Merci Seigneur pour les mentalités que tu renouvelles. Merci pour les cœurs que tu transformes. Merci pour les âmes que tu sauves. Merci pour les foyers que tu restaures, les mariages et les couples que tu restaures, les enfants que tu retrouves. Merci pour l'œuvre que tu as commencé dans nos vies et que tu rendras parfaite au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons prié avec action de grâce. Que quelqu'un dise amen. 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 Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur.
Nous espérons que vous avez été richement édifié par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.